présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée. Il ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Petit chemin de gravier pour aller jusqu'à la maison qui se trouve au fond du parc. Ensuite, monter un perron et aller sonner à la porte d'entrée. La porte s'est ouverte. Une femme maigre habillée d'une robe noire. Cheveux gris, à chignon. Elle lui dit « Entrez !» Il entre. Il se trouve dans un couloir sombre, avec des escaliers de pierre qui montaient aux étages. La femme lui dit « Veuillez me suivre !» Il la suit. Et il monte aux étages. Au premier se trouve un couloir sombre. Elle frappe à une porte. Entrez! Elle entre. Elle ouvre la porte et fait entrer Cliff. C'est une pièce sombre. Il y a un tas de meubles, bibelots, plantes, beaucoup de meubles de toute époque. Est assise sur une chaise devant une table basse, vieille femme, cheveux blancs bouclés, boucles d'oreilles. et collier d'or. Elle porte une robe blanche avec dessus un filet, disons, de côte de maille argent. Côte de maille sur sa robe, l'arche des fantaisies. La femme porte à la main une canne. Elle a l'air très distinguée et son regard est malicieux et gourmand. Eliakif, venez vous asseoir, jeune homme. Elle lui montre avec sa canne une chaise. Il va s'asseoir près d'elle. Vous êtes à l'heure, c'est très bien. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir? Non, pas vraiment. C'est pour vous mettre en garde. Vous ne devez plus voir cette petite Brigitte. Il lui demande pourquoi. Elle lui dit, ça ne vous regarde pas. Et puis, vous êtes bien jeune. Cette petite n'est pas pour vous. Et vous n'avez pas le droit de la voir. Elle nous appartient. Cliff lui demande, qui êtes-vous? Elle lui dit, tous ceux qui ont besoin d'elle. Pourquoi faire? C'est pour notre bien et le sien. Je ne comprends pas rien à tout ça. Feriez bien de m'expliquer, et puis nous ne faisons rien de mal. Et je suis libre. Nous sommes libres. Vous peut-être, mais pas elle. Et puis, qui est libre dans la vie? Nous ne sommes même pas libres du choix de notre vie. Alors, vous ne la verrez plus? Cliff lui dit, je verrai. Elle lui dit, méfiez-vous. Si vous refusez de ne plus la revoir, il risque de vous arriver des ennuis. Il lui dit, je verrai bien. Il se lève. Plus rien à me dire? Elle lui dit, non, jeune homme. Il lui dit, bon, eh bien, au revoir, madame. Elle lui fait, bonne nuit, monsieur. Du salon. Derrière la porte, il trouve la femme. Elle lui dit, je vous raccompagne. Il demande, qui est cette femme? Elle lui dit, ma maîtresse. Il demande, et qui encore? Elle lui dit, seulement ma maîtresse, rien de plus. Une fois dehors, il lui demande, vous pourrez trouver un taxi? Elle lui dit, au bout de la rue, à gauche, vous pouvez trouver une cabine téléphonique. Vous faites le 19. Merci madame. Et il s'en retourne. Il se dit qu'il n'est venu pour rien, une vieille folle qui veut lui faire peur. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Brigitte est à eux? À qui? Pourquoi? Oui, pourquoi? Lorsqu'il rentre chez lui, il voit que la serrure de son appartement a été brisée. Là, il panique. Il se dit, ils savent où j'habite et essayent de s'attaquer à moi. Ils sont vraiment dangereux. Déjà, ils ont voulu nous enlever. Et maintenant, ça. Demain, il réfléchit bien. Il y a danger pour Brigitte et lui. On leur veut du mal. Qui? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je sens très en danger. Durant toute la journée, je ne pense qu'à ça. Lorsqu'il revoit Brigitte au Luxembourg, il lui dit « Nous sommes en danger. Une femme m'a menacé. Et puis, on m'a brisé la serrure de ma porte, de mon appartement. Il faut nous en aller. » Elle lui dit « Mais j'en peux pas. Et mon nom ?» Il lui dit « Écoute, écoute-moi bien. Peut-être que lui aussi te veut du mal. » Mais c'est impossible, il m'aime comme sa fille. Il lui dit, méfie-toi bien, il est étrange, il voit de drôles de gens. Fais-moi confiance, tu es en danger. Pense à tout ce qui nous est arrivé. Il lui dit, viens. Il lui dit, il faut partir comme ça de suite. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes sûrement surveillés. Il prend par la main et lui dit, viens, fais-moi confiance. Allez, tout ira bien. Et il s'éloigne. Ne viens pas. Il se dit qu'elle a passé la nuit dehors. Mais qu'elle reviendra le lendemain. Mais qu'elle reviendra le lendemain. Le lendemain, elle ne vient pas. Il est furieux. Il est furieux. Il marche dans la pièce. Elle dit, elle est à moi, elle est à moi, c'est ma fille, où est ma fille? Frappe du poing. C'est elle, ma promise, oui, ma promise. Et personne ne la prendra. Personne. Il faut qu'elle revienne. Il faut qu'elle revienne. Siège, on se demande ce qu'il est devenu. La lapin, surprise, est au bureau de Judith. Elle lui dit, vous savez que Cliff ne vient plus travailler, il est malade. Elle lui dit, non. Il faudrait peut-être se renseigner chez lui, parce que comme il vit seul, on ne sait jamais. Bien, je vais aller voir. Et Le soir, elle va chez lui. Elle appuie à l'interphone. Pas de réponse. Elle appuie encore à l'interphone. Pas de réponse. Elle appuie à l'interphone de la concierge. Oui. Je suis Judith de Franblanc. Je viens voir monsieur au courtois, concierge fait.
Ah, entrez.
Elle entre. Et trouve dans le hall la concierge. Lui dit : je m'inquiète, il a disparu depuis plusieurs jours et la porte de son appartement a été fracturée. Judith lui dit : je vais voir, merci madame Terrier. Et Judith prend l'ascenseur pour aller à l'étage. Arrivée, elle voit que la porte a été fracturée, la porte de son appartement. Rentre dans l'appartement. Tout semble dans l'ordre et calme. Ouvre la porte de sa chambre. Le lit était fait. Dans l'armoire, il y a ses vêtements. Va au salon. Regarde dans la commode. Le courrier. Sur son bureau. On garde le courrier aussi, les adresses, rien, les papiers sans importance. Elle trouve la lettre du rendez-vous de la femme, la prend, rien. Va dans la salle de bain, tout semble en ordre, elle sort de l'appartement. Et va frapper à la porte de la concierge qui lui ouvre. Pardonnez-moi, vous dérangez madame Terrier, mais il faudra faire réparer la serrure. Et vous avez des nouvelles? Enfin, si vous en avez, il faudra me prévenir. Bien madame. Judith lui dit, j'aurais pu tout de même me prévenir qu'il avait disparu et me parler de l'histoire de la serrure. Ce jeune homme, s'il disparaît, cela risque d'être très grave. Bien, je vous laisse. Judith, dans son bureau, au siège, se dit qu'il a dû partir avec ses filles. Il faut savoir qui est vraiment cette fille. Il demande des services, des renseignements généraux, effectifs, des cartes Franblanc. Là, se trouvent des informations de toutes les personnes. Grâce à leur carte, on sait ce qu'ils achètent, vendent, où ils sont, ce qu'ils font, leur goût, etc. Cela sert à envoyer des catalogues personnalisés d'après leur goût et pour les surveiller. Au service d'information, on lui dit que Brigitte Claire et la nièce. Je traîne Auguste, homme très dangereux et surveillé par les hommes en noir. Il veut nuire à Tremblant et à créer une secte satanique. Il est très attaché à sa nièce, qui est une jeune fille orpheline, et qui, grâce à son nom, poursuit ses études au lycée Henri IV, grâce à la complicité des professeurs qui appartiennent à la secte. Les professeurs sont très dangereux, car ils cherchent à recruter des élèves pour leur secte, essaient de s'introduire grâce à eux dans la société des mécènes, des PDG, des industriels, des artistes, etc. Les professeurs sont extrêmement surveillés. Et en plus, ils cherchent après leur prétendu élu, ce qui est dangereux. Parce qu'ils veulent mettre un élu à la place d'une autre. Après avoir lu le rapport, Judith se dit que Cliff est en danger à cause de cette fille. Il faut absolument le retrouver. Elle prend le dossier qu'elle veut porter à l'homme en noir. Le manoir qui est au fond de la petite cour. Pour y aller, elle fait le même parcours que d'habitude. Sonne à la porte. La porte s'ouvre. C'est un homme à cheveux blancs, habillé d'un costume noir. Elle lui dit, il m'attend, j'ai quelque chose de très important à lui donner.
Ah, entrez, elle entre.
Il lui dit,
il est à son bureau, à l'étage,
merci. Elle monte à l'étage et frappe à la porte du bureau.
Entrez.
Elle entre. Il est à son bureau, elle s'approche, il lui dit
« Alors ?»
Elle lui dit « Il est en danger. » Elle lui tend le rapport. C'est une pochette rouge, il l'ouvre et lit en vitesse. Il lui dit,
vous savez, raison, oui, il risque gros. Vous avez une idée où il a pu aller?
Elle lui dit, non, il est parti sans bagage. La porte de son appartement a été fracturée.
Il va falloir le chercher le plus vite possible. C'est une catastrophe. S'il est élu, vous auriez dû se le garder près de vous.
Elle lui dit, j'avais Serge à m'occuper et son père. Je suis débordé, j'ai pas une minute à moi.
Je sais, nous sommes tous comme ça, mais faut accélérer les choses.
Elle lui dit, c'est de plus en plus difficile avec ses prétendants.
Il lui dit, il y en a déjà un qui est parti en Amérique.
Voir merveilleux monsieur bébé. Elle lui dit, oui, pourvu qu'il ne lui arrive rien, parce que celui-là est impossible, insupportable. Et soupire, finalement, je préférerais Gilbert. Lui au moins, il ne nous ennuie pas.
Dit, c'est pas à nous de choisir. Bon, c'est urgent de retrouver ce monsieur Recourtois. Mais cette fois, vous arrangez pour qu'il reste près de vous. Mais, usez de tous vos charmes et qu'il oublie cette Brigitte. Il n'a pas dû aller bien loin. Non, il n'a pas dû aller bien loin. Enfin, il est peut-être dans cette petite ville de l'Oise, vers sa mère. Voyez aussi à Lyon, on ne sait jamais. Quant à moi, je vais prévenir nos hommes et faire que l'information se passe pour qu'on le recherche de partout. Si on le retrouve, nous vous préviendrons. Et si vous le trouverez, vous me prévenez. C'est urgent. Nous allons bientôt savoir s'il est vraiment l'élu.
Elle lui demande, et l'oncle de la fille, vous ne pouvez pas l'éliminer?
Ce serait difficile. Et puis, que peut-être il peut nous être utile, malgré lui. Après, nous l'éliminerons. Allez.
Au revoir, monsieur.
Elle le quitte. Sort de l'ombre, de derrière le bureau, monsieur de Jean-Jus.
C'est une catastrophe. Si le diable prend l'élu pour en faire sa chose, ou le tuer, nous sommes perdus.
Le manoir lui demande.
Où en sont vos recherches pour savoir qui est l'élu?
Le Jean-Jules lui dit.
Ça vient. Déjà, les ADN. Il faut faire des recherches généalogiques pour savoir les familles que vous savez. Bien, faites vite, le temps presse. Et en plus, il va falloir former notre élu. Nos prétendants sont peu éduqués et formés pour la tâche qui attend l'un d'eux.
Le Jean-Jules demande,
et les autres, qu'allons-nous en faire?
Le manoir lui répond,
pour éviter des discordes, nous les éliminerons, tout simplement.
Le Jean-Jules dit,
c'est cruel.
Il lui dit,
c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire.
Puis l'homme en noir prévient la dame en noir de la disparition de Clip. Ce qui fait que Clip est recherché par la dame en noir, les hommes en noir, c'est le Jean-Jules, la police, la mère de Clip qui a été prévenue de sa disparition. On surveille l'oncle de Brigitte aussi. Et les jours passent. Ces deux jeunes gens, qui ne savent pas qu'ils sont recherchés par tout ce monde, vont droit devant eux, en prenant le chemin de campagne. Il fait beau, ils évitent les villes, couchent dans les granges, dans les champs. Ils sont amoureux et cette vie ne leur fait pas peur parce qu'ils s'aiment. Et ne vivent que l'un pour l'autre. Et comme tous les amoureux, ils se croient seuls au monde. Cliff, après avoir quitté Paris, a oublié toutes les questions qui se posaient sur Brigitte. Il est pris par lui et se sent libre. Ils dorment ensemble, enlacés. Il n'y a rien de plus que des baisers, des caresses. Lise veut la respecter. Marche, la main dans la main. Leurs vêtements s'usent. Se sent lisse. Mais qu'importe. Se parlent peu, ce qui compte pour eux, c'est d'être ensemble. Lorsqu'ils passent dans des petits villages et qu'il y a une petite épicerie, ils vont acheter des aliments faciles à emporter et à manger. Quelques conserves, des fruits, des gâteaux, du chocolat, du fromage, de la charcuterie. Ils achètent pour plusieurs jours. Les gens ne leur posent pas de questions. Puis il y a tellement de jeunes personnes qui sont comme eux, qui vagabondent à cause du chômage, de la grande misère. Et puis, ils sont si jeunes et beaux. Payent avec leur carte, parce que chacun a gardé sa carte. Ce sont des petits achats, mais au centre, information carte, qui a été prévenue par Brigitte, savent qu'il y a un achat. Et puis, il faut savoir où ils sont. Mais on se dit au centre que ce sont que des jeunes gens. Et on surveille que des jeunes gens qui font une fugue amoureuse. Alors on dit que ça ne sert à rien de prévenir quelqu'un, surtout les hommes en noir. Je dis que c'est. Elle ne dit rien, mais elle les surveille.
jours passent. Il s'enfonce dans la France profonde. Dorment dans les granges, sont très heureux. Et que tous les deux, ils retrouvent leur innocence d'enfant. Un jour, ils n'ont plus d'argent sur leur compte. Alors ils décident de faire des petits boulots dans les fermes, à garder les vaches. Faire les foins, ramasser les légumes, les fruits. À nettoyer les étables. À peindre les volets. Les paysans ne leur posent pas de questions. Ils sont tellement jeunes. Et puis, il y a beaucoup de vagabonds. Et puis pour eux, c'est commode. On s'arrange. On leur donne à manger, on les loge, et ils partent avec un peu de provisions pour plusieurs jours. Cette vie en plein air, à marcher, faire des petits travaux, les font maigrir. Cliff rajeunit, redevient petit garçon, maigre, cheveux blonds en broussailles, vêtements déchirés et pieds nus. Ses vêtements montrent sa belle peau blanche et lisse. Il fait 14 ans, elle aussi. Ils s'aiment tous les deux et s'amusent comme des gosses. À se courir après, à se lancer des fleurs, à grimper aux arbres. Ils s'amusent et à rien d'autre. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ils n'ont pas envie d'autre chose. C'est l'été, il fait chaud et beau. Un jour, il trouve un endroit charmant, une bergerie près d'un ruisseau. Elle est dans un champ, un creux entouré de bois. Il décide, c'est de vivre là. Il n'y a pas d'électricité. Que l'eau du ruisseau. La bergerie n'a qu'une pièce assez grande. Le toit est en bon état. Il y a une fenêtre sans vitre. C'est simplement une ouverture dans le mur. Rien de plus. Ils se font une litière avec de l'herbe qui font sécher. Il y a une table en bois et un bar, rien de plus. Et ça leur suffit. Ils sont heureux comme ça. Cliff dit, nous allons vivre comme si nous étions dans une île déserte. Il se fait une lance avec un bout de bois et une lanière de cuir qu'il a trouvée. Mais c'est pas facile. Et ça, c'est quoi? Les oiseaux, ça vole vite et haut. Mais il essaye.
Elle, elle cherche des myrtilles, des pissenlits, des champignons. Et lorsqu'ils en verront faim, ils vont au bourg. Pour voir si on ne peut pas leur donner, leur offrir un peu de lait, du fromage. Ils sont heureux comme ça. Un jour, au bourg, un jeune homme d'avait 25 ans, avec de très jolis yeux bleus, donne à Brigitte une guitare et lui dit « J'ai trouvé dans le grenier de mon père, mais moi, tu sais, la musique, ça marche pas. Alors, si tu veux, il dit, merci, moi, je sais en jouer. » Et le soir, elle joue de la guitare à Cliff. Ils sont heureux, ils ont tout oublié. Ce temps, la mère de Cliff, la pauvre Mélusine, se fait un souci monstre. Elle est chez elle, dans son salon, et se dit « Je l'ai retrouvée, et le voilà déjà disparu. Pourtant, le manoir m'avait bien dit qu'il le protégerait. Que va-t-il devenir, pourvu qu'il ne tombe pas malade ?» Pourquoi est-il parti comme ça? Si Didier avait été là, je lui aurais demandé de l'aide. Et ce beau lieu, ne veulent-ils pas chercher à lui faire du mal? Si on le retrouve, je lui dirai, c'est de revenir, de ne plus me quitter, de rester près de moi. Les jours passent. Pendant ce temps à Paris, Terme est furieux. Il prépare des attentats avec les musulmans contre la France. Terme, c'est l'oncle de Brigitte. Ils sont dans une cave. Il a réuni quelques fidèles, des représentants du monde musulman. Il leur dit « Il vous faut, c'est détruire ce monde. Pour le succès de nos idées et le reconstruire à ma façon. Moi et mes disciples en prendront le commandement. Je vous ai réunis, c'est pour que vous donniez l'ordre de semer la terreur, d'abord en France, parce que la France est le centre du monde grâce à Franc Blanc. Des attentats de partout. Mettez la terreur, semez la terreur. Vous allez nous aider, faire exploser les avions, trains, les ponts, les services publics, magasins,
et aussi le siège prend blanc. Ces ordres doivent être exécutés.
Et ils le sont.
Et les avions explosent en plein vol.
Alors,
ce qui crée des milliers de morts. Les gens ont peur de prendre l'avion.
Les trains explosent.
Reçoivent ce sacrement. Oui.
Après, des milliers de morts. TGV en explosant, faut dérailler d'autres TGV. Et c'est la panique. Les pompiers, les secours sont de partout. Les avions explosent.
Thank you.
vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Pierre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.